va peut-être passer directement à la conférence de Sébastien Laurent et je vous propose qu'on laisse un temps pour les questions à la fin des trois conférences. Donc Sébastien Laurent qui va nous parler de l'histoire de la surveillance et maître de conférence habilité en histoire contemporaine à l'université Michel de Montaigne de Bordeaux et également maître de conférence à Sciences Po Paris. Il est spécialiste donc de l'histoire du renseignement au 19e et au 20e siècle. Et il a publié ou dirigé de nombreux ouvrages sur le renseignement, notamment un ouvrage qui s'appelle « Secrets d'État, pouvoir et renseignement dans le monde contemporain » qu'il a publié avec Olivier Fourcade en 2005. Un ouvrage sur Paul Delouvrier également en 2005 et des ouvrages sur les archives secrètes.
Bien, pendant que ça charge, puisqu'on n'a plus tellement de temps, je voudrais conserver quand même petite vingtaine de minutes pour vous présenter quelques réflexions générales, quelques réflexions historiques autour de la question de la surveillance. Et je voudrais partir, je vais d'ailleurs redire à bien des égards, plus ou moins différemment, certaines choses qui ont été affirmées par mes deux prédécesseurs, mais je voudrais au préalable partir finalement de deux idées générales, qui sont des idées que l'on trouve finalement relativement communément admises. Il faut un contrôle 5, voilà. Deux idées communément admises ou assez fréquemment diffusées, répandues notamment dans les médias, mais sur lesquelles justement mes deux prédécesseurs ont déjà montré qu'elles étaient en partie imparfaites. La première, c'est que finalement, l'État, les pouvoirs publics, le gouvernement seraient une forme de figure cyclopéenne qui surveillerait en permanence nos moindres faits et gestes. C'est une idée que l'on peut interroger, mais en tout cas c'est une idée courante. La deuxième idée, c'est que nous connaîtrions actuellement, notamment dans l'Europe, notamment dans la France, postérieure au 11 septembre, une période qui marquerait le sommet, finalement, contemporain, un apogée de la surveillance. Je crois à cet égard, et c'est la tâche ingrate, mais quasiment fonctionnelle de l'historien dans ce genre d'événement, je crois qu'il serait dangereux de considérer que finalement ce genre de phénomène débute seulement à notre époque. Et c'est à l'historien précisément de rappeler à la fois la profondeur historique de cela, mais aussi d'apporter peut-être quelques éléments d'analyse. Et je me situerai bien sûr dans les petites vingtaines de minutes qui me restent dans une perspective très panoramique, très générale, dans une réflexion de long terme. Je voudrais au préalable apporter deux petits éléments de précision. Qu'est-ce que j'entends dans mon cas par surveillance? Il s'agit là, bien évidemment, de la surveillance de l'individu, des individus, ou la surveillance collective des individus, c'est-à-dire la surveillance de la société, par les autorités publiques. Et je précise bien les autorités publiques parce qu'il existe aussi des phénomènes de surveillance privée pour des acteurs privés au bénéfice d'intérêts privés que je laisse de côté parce que c'est un autre cas de figure. Deuxième élément sur lequel je reviendrai, quelle est la nature finalement de cette surveillance? Alors il en a été question au préalable. Elle est finalement assez variée. Moi je m'intéresserai principalement à la surveillance qui porte sur le comportement des individus au regard du droit, puisque c'est ce qui légitime dans un État démocratique la capacité de surveiller les individus. Donc que ce soit donc une surveillance sur le comportement des individus ou alors autre chose sur leurs opinions, opinions religieuses, opinions politiques, qui est aussi un des autres éléments de cette surveillance. Alors mon propos aura deux temps. D'abord préciser assez rapidement un certain nombre de réflexions générales sur des éléments d'ordre culturel ou politique qui touchent au contexte dans lequel s'inscrit la surveillance en France sur les deux siècles. Et puis ensuite, je regarderai d'un peu plus près la dimension pratique de cette surveillance dont la question de l'identité est un élément, mais ce qui a été dit brillamment avant moi me permettra justement de passer plus vite. Premier point, qui est un point historique de départ, mais Vincent Denis l'a rappelé, la société d'ancien régime dans lequel s'inscrit le début des phénomènes de surveillance-identification est une société caractérisée par des éléments prémoderne précisément, dans lequel il l'a dit, les contraintes collectives pèsent fortement sur les individus et dans lequel l'interconnaissance, la surveillance de tous sous le regard de tous dans des communautés de petite taille est assez prédominante. Ce qui explique en partie seulement, le faible investissement des organisations centrales dans la surveillance, ou alors un investissement qui est en majorité fait sur des catégories délictueuses ou des catégories spécifiques, l'inscription militaire, l'inscription maritime, les militaires. Cela a été dit par Vincent Denis. Mais ce sont donc des micro-surveillances, on parle alors d'auto-surveillance par la communauté elle-même, ce sont des micro-surveillances, mais qui sont en fait, au regard de leur qualité, qui sont souvent, il l'a dit d'ailleurs, extrêmement imparfaites. Mais c'est finalement le premier contexte dans lequel naît la surveillance. Le second élément, c'est un basculement autour du XVIIIe et du XIXe siècle avec la naissance de ce qu'on va appeler à l'époque l'opinion, qui n'est pas du tout l'opinion publique, mais qui est l'opinion d'une catégorie de la bourgeoisie et de certaines élites nobiliaires, qui vont ouvertement, en essayant de déjouer la censure, commencer à émettre un certain nombre de critiques vis-à-vis des autorités religieuses et vis-à-vis des autorités politiques. Et c'est autour de ce moment-là qu'à la même époque, dans le contexte de la lieutenance générale de police de Paris, naît les premiers efforts en matière de surveillance des opinions politiques. J'y reviendrai. Donc on a un basculement autour des 18e, 19e siècle avec cette naissance de l'opinion, puis troisième élément, l'apparition et la naissance véritable, sur un plan philosophique d'ailleurs, de l'individu. Et ça, c'est un point qui est tout à fait important. Une chose est d'identifier par des signes pratiques et par des dispositifs techniques l'individu. Une autre chose est de considérer, à l'égard de la du point de vue des autorités, qu'elles soient religieuses ou politiques, que l'individu existe. L'individu au sens où nous l'entendons dans son sens contemporain. Et là, il y a une véritable mutation de civilisation qui touche un certain nombre de pays occidentaux. Je n'y reviens pas, mais c'est un événement tout à fait important qui se concrétise très pratiquement par quoi ? Eh bien, au XIXe siècle, par la délimitation de ce qu'on va appeler les libertés individuelles par le droit. La fixation dans des textes à valeur constitutionnelle, dans des textes de loi, d'un certain nombre de garanties publiques qui sont apportées aux individus. Donc il y a un basculement très important qui explique la disparition de ces sociétés archaïques, cette société d'ancien régime, vers la société moderne qui est fondée sur l'individu et des garanties qui sont apportées à ces individus. Donc voilà très rapidement quel est le contexte général. Je mentionne un dernier point qui est tout à fait important, qui est l'émergence aussi de la politique moderne au sens contemporain du terme. Et là, c'est tout à fait important, ce sont l'introduction de mécanismes de représentation politique et l'introduction ou la naissance d'idéologies qui vont contester ce sur quoi était fondée la société d'Ancien Régime. L'introduction du suffrage d'abord censitaire, limité à une élite, en France en 1815, puis en 1830, puis l'introduction du suffrage universel, 1848, puis 1870, font entrer par étapes des couches nouvelles de la société dans l'ordre de l'expression politique, et de ce point de vue-là, l'enracinement du suffrage universel marque l'entrée des masses dans la vie politique et pose inévitablement, du point de vue de la surveillance de l'opinion politique, des questions tout à fait nouvelles et très urgentes aux autorités. C'est un point qui me paraît tout à fait important. Et c'est d'ailleurs à cette époque-là, sous la Restauration, avec la naissance du suffrage censitaire, Pierre Carré-Lacohen l'a bien montré dans une thèse qui fait un très beau livre, que naît ce qu'on appelle la surveillance de l'esprit public, avec des méthodes qui sont dorénavant tout à fait nouvelles et plus précises. Et puis la montée en puissance des idéologies contestatrices que sont les idéologies libérales puis démocratiques, là, vont se traduire par la naissance et le renforcement des appareils de surveillance. J'y viendrai dans un moment. Le point à conserver présent à l'esprit dans la perspective ce document que vous avez à l'écran et qui date donc de l'an 11 de la République, de 1803 donc, le point à conserver à l'esprit, c'est que finalement, Troisième République, la Deuxième République comme la Troisième République n'ont pas remis en cause les dispositifs légaux, très faibles à l'époque, mais aussi les dispositifs pratiques, administratifs, de surveillance des individus, que ce soit à l'égard du comportement ou des opinions politiques. Et donc, c'est un élément classique, mais qu'il faut conserver présent à l'esprit. Très simplement, la police politique républicaine est un héritage direct dans ses cadres, dans ses fonctionnements de la police politique du Second Empire. Ça montre quoi ? C'est que dès les origines, c'était patent sous la Première République, c'est une évidence, c'était net en 1848, c'est encore plus évident sous la Troisième République. Dès les origines, la République est un régime de surveillance. Elle est démocratique, mais c'est un régime de surveillance. Et c'est un point qui me paraît très important. Ce n'est pas un épiphénomène, un accident en raison de circonstances politiques. C'est un élément de continuité avec les régimes précédent. Quelles sont les transformations d'ordre pratique du point de vue de la réalisation des tâches de surveillance? Eh bien, on constate que au XIXe siècle, dans le contexte que je viens de décrire, apparaissent des activités de surveillance publique qui connaissent un développement tout à fait important, c'est que sont créés des organes de surveillance qui sont des organes administratifs de surveillance, des étapes importantes, le premier empire, mais surtout le second empire, qui crée justement ces polices spécialisées, qui est une police politique, qui est appelée la police spéciale, qui a pour fonction de surveiller non pas le comportement des individus au regard du droit commun, mais de surveiller et de collationner leurs opinions religieuses et politiques à cette époque-là. Le dispositif est complété par la naissance de services de renseignement militaires qui n'effectuent pas seulement des tâches de collecte militaire ou technique, mais qui effectuent aussi un travail de surveillance politique à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire. Dernier point de cette première grande, c'est aussi finalement la grande diversité des acteurs de la surveillance. Et de ce point de vue-là, le 19e siècle est tout à fait curieux. Naissance d'organes spécialisés avec des tâches très précisément délimitées, essentiellement un certain corps de policiers et certains militaires en très petit nombre, mais aussi, en fait, une incapacité pour l'État, sur le long 19e siècle, à organiser de façon rationnelle cette surveillance. Et on constate que si l'on prend des corps subalternes de l'administration, les eaux et forêts, les douanes, les postiers, par exemple, qui effectuent un travail quotidien, eux-mêmes reçoivent des tâches de surveillance politique, des administrés, à des échelles tout à fait différentes, et des travaux récents tout à fait nets à cet égard. Donc on voit que d'une part, finalement, il n'y a pas de conception d'ensemble, et là la réalité historique déjoue tous les fantasmes panoptiques, il n'y a pas de conception d'ensemble avec une volonté d'organiser très rationnellement la surveillance sur l'ensemble du territoire, et puis ensuite, à l'échelle pratique, il n'y a pas de rationalisation de l'organisation. La preuve en est, d'une part, de multiples chevauchements entre ces différents corps de fonctionnaires, y compris parmi les différents corps de fonctionnaires qui sont spécialisés sur la surveillance. Deuxième élément, c'est les multiples conflits, les rivalités administratives qui déclenchent au XIXe siècle les premières guerres des polices, qui sont un élément encore actuel de la vie policière. J'en termine donc avec ce premier volet et je voudrais revenir maintenant sur quelques éléments plus peut-être plus concret, en rappelant d'abord que, et ça c'est important à mon sens, surtout dans la perspective de ce que vous allez entendre cet après-midi, mais mon prédécesseur l'a un petit peu rappelé, l'activité de surveillance ou d'identification n'est pas une activité qui est, je dirais, continue dans son intensité dans le temps. Il y a, Patrick Veil par exemple l'avait bien montré en matière de surveillance des étrangers, en matière de politique d'immigration, il y a des poussées xénophobes, mais il y a aussi des bouffées de volonté de la part de l'État, sous la République, de surveiller les individus. Et quand on prend les deux siècles en écharpe, on constate de ce point de vue-là que, d'une part, il y a des périodes qui sont des véritables régimes de surveillance, la Convention, le Premier et le Second Empire, l'époque de Vichy et de l'occupation, bien évidemment, mais il y a aussi un autre élément discriminant qui est le contexte général, c'est-à-dire le temps de paix ou le temps de guerre. Bien sûr, en temps de guerre, notamment pendant la guerre mondiale, la surveillance se légitime plus fortement et l'investissement étatique dans la surveillance est d'autant plus fort. Mais en temps de paix, il y a des périodes de tension ou de crise pendant les temps de paix qui sont aussi caractérisées par des moments particulièrement importants de surveillance. Dans son livre, Vincent Denis montre que la période de la Régence est une période de basculement. La fin des années 1880, dans un contexte de tension nationale et nationaliste en France, est un autre moment de paix, mais aussi d'accroissement de l'effort de surveillance. Donc il y a une très très forte discontinuité, même en temps de paix, de l'effort de surveillance. Alors quels sont ces moyens maintenant? Et je vais essayer d'en terminer par là. D'abord, les moyens de la surveillance sont multiples. On a présenté là des éléments d'ordre technique, des fichiers, des moyens d'identification. En amont de cela, il y a des moyens qui sont tout simplement des moyens humains. Et de ce point de vue-là, les moyens sont très anciens. Et les pratiques de surveillance, on peut changer. Les discussions, les interrogatoires, dans un cadre légal ou pas légal, avec ou sans violence. Les techniques d'infiltration policière, la subornation, le chantage, les filatures. Bref, il y a de multiples techniques de renseignement humain qui constituent quotidiennement le cœur des pratiques de surveillance. L'autre point à retenir, c'est finalement, là aussi, l'ancienneté de ces pratiques. Dans le Paris du XVIIIe siècle, c'est autour de 1730, hein, Gilles Malandin l'a bien montré dans un article très intéressant, qu'il y a une première poussée de surveillance clandestine des opinions, y compris des opinions populaires, avec, à cette époque, environ 300-350 mouches espions dans la lieutenance générale de police de Paris qui effectuent ce travail de collecte des opinions, mais là, pas de l'opinion de l'élite, de l'opinion de la population parisienne. Donc, ce sont des pratiques très anciennes et pour lesquelles, finalement, il n'y a pas de modernisation véritable du point de vue de l'activité policière. Le second point, ce sont les moyens techniques dont on a parlé tout à l'heure. Et là, de ce point de vue-là, il y a une interrogation sur, finalement, sur les ruptures. Finalement, est-ce qu'il y a un âge technique de la surveillance et est-ce que les moyens techniques employés dans les pratiques de surveillance, est-ce qu'elles n'ont pas introduit une forme de rupture dans la nature même de la surveillance? Moi, je ne le crois pas, mais je laisse à des spécialistes et à des hyper-contemporanéistes le soin de trancher. Je voudrais juste, là aussi, rappeler que l'utilisation par les organes de surveillance, quels qu'ils soient, des moyens techniques est extrêmement précoce. Et ce que l'on observe de très près quand on fait un peu l'histoire de ces techniques et des moyens d'information et de communication, c'est que très rapidement, les administrations ont investi, les cas biométriques qui étaient cités notamment par Pierre Piazza il y a un instant le montrent très bien, mais c'est valable également tout au long du 19e siècle. C'est-à-dire que l'État a très vite investi financièrement et techniquement ces moyens de transport de l'information, de transfert de l'information et ces différents moyens de communication. Je rappellerai quelques brèves étapes. Le télégraphe électrique en 1837, les câbles sous-marins dans les années 1860, donc au 19e siècle, le téléphone, la radio, enfin la TSF, le satellite, ensuite l'Internet, tous ces moyens qui scandent largement pour les premiers le 19e siècle, ont vu à chaque fois l'État intervenir. Dans le cas de la France, le ministère de l'Intérieur a très tôt soit mis le monopole, soit développé les réseaux de télégraphe optique, de télégraphe électrique, avant de nationaliser le téléphone assez rapidement dans les années 80. Le ministère de la Marine et de la Guerre, ces deux ministères ont encouragé, ils sont même en France d'ailleurs largement à l'origine des transferts de technologies depuis l'Italie et de la Grande-Bretagne de la TSF. Donc on voit très bien l'usage militaire et en matière de surveillance qui peut être fait de ces techniques. Un autre point qu'il faut préciser, c'est que tous ces moyens techniques servent finalement à accumuler un très grand nombre de données. Là aussi, je crois qu'il faut faire très attention. Qui dit accumulation de données ne dit pas capacité de traitement de ces données, capacité d'expertise de ces données. Ça, c'est un problème central que les historiens du renseignement connaissent bien. Nous sommes aujourd'hui, un historien américain l'avait dit dès 1973, dans une ère de surveillance de masse, c'est évident avec les moyens d'interception satellitaire. On ne sait rien véritablement de la capacité et de la qualité du traitement de l'information individuelle dans ce renseignement, dans ces renseignements de masse. Donc il ne faut pas peut-être mal interpréter ce qu'est effectivement la surveillance de masse. Elle pose en son principe un certain nombre de questions éthiques, politiques peut-être, mais par ailleurs ça ne signifie pas que ces connaissances, cette surveillance de masse produisent des données qui soient réellement exploitables, facilement exploitables, si on laisse de côté l'urgence qui est l'identification pour les autorités, puisque c'était un travail quotidien. Hein, je laisse de côté cet élément particulier. J'aurais voulu, si j'avais eu quelques temps, mais peut-être on pourra le faire au cours des questions, mentionner enfin quelques éléments qui concernent cette surveillance démocratique, dont vous avez vu que c'est fortement enraciné dans des régimes démocratiques, ce travail de surveillance, et notamment évoquer la question du rapport des autorités politiques et du rapport à la légalité. Je crois que c'est un peu sous ce signe qu'est placée la journée d'aujourd'hui. De ce point de vue, je voudrais brièvement signaler l'exception française, c'est un mal national, à tout point de vue, qu'est le caractère extrêmement tardif avec lequel les autorités parlementaires se sont saisies ou ont accepté, on a accepté qu'elles soient saisies, c'est plutôt comme ça du point de vue du processus politique, qu'elles soient donc concernées par la question des services de renseignement. C'est un des éléments du travail de renseignement. Ce n'est qu'en 2007, c'est-à-dire donc l'année dernière, qu'une loi a créé un dispositif permettant aux parlementaires de contrôler les activités des services de renseignement, sur le détail desquels on pourra éventuellement revenir. Il faut savoir qu'en fait, c'est une pratique que la République avait assez tôt inventée, en 1848. Le Parlement, l'Assemblée, non pas l'Assemblée constituante, l'Assemblée constituante avait mis en place des commissions de contrôle parlementaire pour un des éléments de la surveillance, l'élément financier, à savoir les fonds secrets. Et jusqu'au Second Empire, ce contrôle parlementaire de fonds secrets a fonctionné. Et ce n'est que dans les années 1970 du XXe siècle que l'opposition centriste, d'abord, dans les années 80, l'opposition communiste, a essayé en vain de mettre en place ce contrôle parlementaire sur ces organes de renseignement. Donc c'est chose faite en 2007, très tardivement, quasiment 10 à 15 ans plus tard que l'Allemagne, l'Italie, et la plupart des grandes démocraties libérales, qu'un certain nombre de pays d'Europe de l'Est d'ailleurs. Donc on voit qu'il y a là aussi, ça traduit la volonté tout simplement du pouvoir exécutif de ne pas tolérer cette immixtion sur ce qui relève du domaine réservé. Un tout dernier point qui m'amènera à conclure afin que l'on puisse discuter. C'est malgré tout, et je prendrai un tout petit peu le contre-pied de Pierre Piazza, quelques progrès en matière d'encadrement d'un certain nombre de techniques de surveillance. La question du fichage, c'est le verre à moitié vide et à moitié plein, c'est classique, mais c'est une question d'interprétation. La loi de 78, qui crée la Commission nationale informatique et liberté, a quand même permis l'encadrement de pratiques qui relevaient alors jusque-là du pouvoir réglementaire et d'un pouvoir réglementaire non contrôlé et qui étaient, on l'a encore vu avec les rapports Bauer de décembre 2008, il y a deux mois, qui étaient une grande fantaisie et dans lesquelles l'administration pouvait faire absolument ce qu'elle souhaitait. Donc cette loi de 78, elle a mis en place deux principes, c'est que l'administration doit déposer, en gros, rapidement, une procédure d'autorisation dès qu'elle veut créer un fichier, que ce soit un fichier d'ailleurs de surveillance ou que ce soit un fichier administratif tout simple. Il est évident que, dans la perspective qui nous intéresse, c'est notamment le cas des fichiers de surveillance qui étaient là concernés. Il va de soi, et là le rapport Bauer, un rapport récent remis le 10 décembre 2008, a montré qu'on avait redécouvert, le groupe de travail des fichiers a redécouvert une dizaine de fichiers qui avaient échappé à la vigilance. Donc on voit bien que se maintiennent malgré tout des pratiques clandestines de fichage par l'administration elle-même, c'est une évidence. Mais la loi de 78 a quand même représenté un progrès. Deuxième exemple, une loi de 1991 qui vise à encadrer les écoutes administratives et les écoutes judiciaires. Là aussi, on a créé une autorité administrative indépendante. Du point de vue de l'histoire longue de la démocratie libérale, c'est un processus tout à fait important. Et là, pour une fois, je puis dire, par rapport à d'autres grandes démocraties libérales, la France n'a pas été la dernière. La Belgique a adopté il y a un an quelque chose à cet égard. Dernier exemple, mais je n'ai pas le temps de développer, quelque chose d'encore plus particulier, c'est une loi de décembre 91, qui autorise un certain nombre d'administrations, notamment l'administration des douanes, notamment les services des renseignements douaniers, à procéder à ce qu'on appelle les livraisons contrôlées, c'est-à-dire tout simplement à infiltrer des réseaux de la criminalité organisée et à eux-mêmes utiliser le trafic de drogue pour, bien sûr, procéder ensuite à des arrestations. Donc on voit bien que toutes ces pratiques de surveillance, très progressivement, très lentement, très incomplètement, tendent à, non pas se placer sous le régime de la loi, mais tendent du moins à se voir imposer un certain nombre de contraintes et en tout cas, ce n'est pas la moindre des choses, essayer de justifier médiatiquement, s'entend, dans l'espace public, leur éventuel non-respect lorsque leur non-respect des pratiques existantes est découvert. Alors que pendant deux siècles, l'administration a développé des pratiques non pas illégales, puisqu'il n'y avait pas de légalité, mais des pratiques que l'on pourrait juger aujourd'hui comme scandaleuses, sans jamais se poser la question de la justification de ces pratiques et sans jamais avoir à les justifier sur un plan philosophique ou politique. Alors, trois mots de conclusion. Vous voyez bien, mais je crois que je n'ai pas avoir été le seul à l'avoir montré ce matin, que la surveillance, elle a un long passé, que la surveillance est une pratique ancienne avec laquelle la démocratie et notamment la République a toujours composé. Ça, c'est un point qui me paraît tout à fait important. Le second point, c'est qu'il y a un progrès tout à fait mesuré de l'encadrement juridique. Il est évident que le cadre national paraît, et là Pierre Piazza l'a dit, je crois très justement, totalement dépassé à l'égard de certaines pratiques d'identification. Je ne pense pas du point de vue des activités de surveillance, qui demeure encore de renseignement, qui demeure encore une prérogative des États. Mais malgré tout, malgré ces étapes, il subsiste, malgré le discours public qui valorise la publicité, qui valorise la transparence de l'action publique. Il subsiste toujours un espace de l'État qui est un espace secret, ce que j'ai appelé dans d'autres travaux l'État secret, qui finalement se nourrit et vit du travail quotidien et très ancien qui est celui de la surveillance. Voilà. Merci.